La semaine de la presse et des médias dans l'école s'achève en France. Comme de nombreux autres consoeurs et confrères journalistes, j'ai échangé avec des scolaires pour leur expliquer mon métier, répondre à leurs nombreuses questions et leur en poser moi aussi pour mieux comprendre la façon dont ils et elles s'informent. L'éducation aux médias et à l'information devrait être un droit pour les citoyens de tous âges et un devoir pour les journalistes et nos gouvernants. On en reparlera tout à l'heure avec Jérôme Bouvier, fondateur des Assises International du journalisme. Ensemble, nous vous présenterons le programme de ces assises qui se dérouleront à Tours, en France, dans les jours à venir. Elles sont organisées par l'association Journalisme et Citoyenneté. Car oui, le monde associatif regorge d'initiatives qui ont besoin d'être soutenues et dont les médias de tout type doivent se faire l'écho. Salut, c'est Steven Jambeau. Vous écoutez l'Atelier des médias de RFI. Pour démarrer cette émission, nous allons découvrir ensemble le podcaston, dont la deuxième édition débute lundi 25 mars et dure une semaine. Le podcaston, c'est une initiative réunissant quelques 300 podcasteurs francophones qui mettent en lumière les activités d'une association. Pour en parler, j'ai appelé l'un de ses cofondateurs qui vit à Montréal.
RFI.
Bonjour Jérémy Mani.
Bonjour.
Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler quelle est l'idée de départ qui a donné lieu au podcaston ?
Alors c'est assez simple, on s'est juste demandé, dans cette magique et magnifique univers du podcast, à quoi ressemblerait un événement caritatif ? Et on a essayé de l'inventer tout simplement. Donc le podcaston, c'est une initiative caritative qui mélange l'ensemble des podcasteurs, quelle que soit leur taille et leur notoriété.
Alors derrière cette idée, il y a aussi une association. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ?
Oui, tout à fait. C'est organisé par l'association Altrui, qui est une association donc sans but lucratif, dont la mission, la raison d'être, hein, si j'ai envie de dire, est de promouvoir l'engagement associatif sous toutes ses formes. On était complètement incapable de choisir une cause avec Yves Delnat, cofondateur, et donc on s'est dit qu'on allait monter une association qui s'appuie sur le digital, sur les capacités du numérique, pour promouvoir l'engagement associatif et faire en sorte que toutes ces associations, quelle que soit leur cause, leur taille et ce qu'elles cherchent à faire sur le terrain, puissent être mieux vus, mieux connus de la part des internautes et par extension, ceux qui écoutent des podcasts, parce que ça reste un canal numérique.
Alors cette semaine qui vient, plus de 400 podcasts, dont 400 podcasteuses et podcasteurs francophones vont prendre part à cette initiative du podcaston et il y aura des podcasts vraiment de tout type.
Exactement, on aime bien prendre l'analogie, un peu le parallèle entre le monde du podcast et le monde associatif. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le monde associatif, il y a des grosses associations nationales ou internationales qu'on connaît toutes et tous. Citons Médecins Sans Frontières, Restos du Cœur, quelques-uns comme ça. Mais il y a aussi une multitude d'associations beaucoup plus locales, beaucoup plus spécialisées ou sur des niches particulières. Et dans le podcast, c'est la même chose. Il y a quelques vedettes qui ont des très grosses audiences dans les podcasts natifs. Et puis, il y a aussi énormément de podcasteurs qui sont soit plus récents, soit qui parlent d'un sujet tellement spécifique qu'en fait, ils ont réussi à drainer une communauté de gens passionnés par ce sujet, mais ne sont pas forcément connus par toutes les autres personnes qui ne s'intéressent pas à ce sujet particulier. Et donc, on met en parallèle les deux, voilà.
Donc en fait, c'est une opération qui également permet la découvrabilité tant des podcasts que des associations à but caritatif.
Exactement. Chaque podcast, finalement, a son audience, qu'elle soit large ou pas, qu'elle soit très spécifique ou pas. Et le principe, c'est que chaque podcasteuse ou podcasteur offre cette audience à une association et donc fait découvrir les coulisses de cette association, les contraintes, les challenges qu'ils peuvent avoir au quotidien à toutes les personnes qui écoutent ce podcast habituellement. Même si la ligne édito du podcast est probablement un peu différente tout au long de l'année, il y a un pas de côté qui est fait pendant la semaine du podcaston pour laisser la place à une association.
Jérémy Mani, l'objectif, c'est de récolter de l'argent. Aussi, l'an dernier, 250 000 euros de dons estimés avaient été récoltés grâce au podcaston. Comment mesurer le succès de cette nouvelle édition qui va s'ouvrir ?
Et bien, c'est bien ça le problème. Et très sincèrement, on n'a pas encore trouvé la solution. Et je vous explique pourquoi. Le montant que vous citez, 250 000, c'est un estimé parce que chaque podcast invite son audience à faire un don directement aux associations. Ça passe bien sûr pas par nous. Donc, on n'a pas de traçabilité du nombre de dons et encore moins sur la durée parce qu'un épisode il y a un an reste valable et on pourrait imaginer que quelqu'un l'écoute maintenant et fasse un don. Donc, on est arrivé à ce montant-là en faisant des études a posteriori, en contactant les associations et leurs partenaires et l'OASO qui en centralisent beaucoup pour arriver à ça. Mais surtout, là où on veut en venir, c'est que Ce n'est qu'un indicateur de succès parmi tant d'autres. Et je vous donne un exemple très concret. Il y a une douzaine de podcasts magnifiques qui se sont réunis pour faire de la prévention contre le harcèlement scolaire. Et là, il n'y a pas d'appel aux dons, en fait, parce que des associations comme e-Enfance, par exemple, qui travaillent sur ce sujet, n'ont pas vraiment besoin de dons. C'est jamais malvenu, mais ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est l'information. C'est d'avoir un micro tendu pour faire savoir ce qu'il faut faire si votre enfant est harcelé à l'école. Et pour nous, ça rentre complètement dans les cases du podcaston. Donc, vous voyez, il y a d'autres objectifs. Et puis, on nous a raconté plein de belles histoires sur le fait que tel auditeur avait découvert une association et est devenu bénévole, que d'autres ont réussi à avoir des subventions publiques parce que dans leur dossier de subvention, ils avaient pu mettre en avant l'épisode dans lequel ils étaient invités. Voilà, plein, une multitude de belles histoires comme ça qui font que, voilà, il y a plein d'externalités positives et que le don en est un, mais pas l'unique.
Le podcaston peut s'appuyer sur de nombreux partenaires comme Podcast Magazine, l'hébergeur de podcast Ocha ou encore la plateforme Hello Asso, et également des plateformes de podcasts comme Apple Podcasts, Spotify et Amazon Podcasts qui vont faire de la mise en avant des épisodes estampillés podcaston avec le mot-clé podcaston. Comment avez-vous discuté, échangé avec les plateformes à ce sujet ?
Et effectivement, on tient à les remercier. Et puis d'autres, comme la régie publicitaire Acast ou Edisound. En fait, il y en a vraiment beaucoup et j'ai peur de ne pas tous les citer. Mais c'est la nouveauté, la particularité de cette deuxième édition. On a surfé sur la vague d'enthousiasme de la première pour taper aux portes de ces gros acteurs du podcast que tout le monde connaît et leur demander s'il y avait un moyen de donner un petit coup de pouce de visibilité. Et je dois le dire, et je le fais avec plaisir, que la plupart ont accepté, et non seulement accepté, mais ne demandent rien en échange. Donc c'est quand même vraiment un geste altruiste de leur part. Et on n'a même pas le logo sur notre site pour l'instant, oui, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais ils vont le faire. Ils n'ont pas besoin de nous, hein, bien sûr, en termes de notoriété, mais donc ils ont quand même accepté de le faire. Et donc, chacun à leur manière, ce sera un peu la surprise dès le 25, c'est que chaque plateforme va mettre en avant soit une sélection d'épisodes, soit un éventail un peu plus large, et faire en sorte de faire découvrir à tous ceux qui ont l'habitude, comme ça, de surfer sur Spotify, sur Apple, et d'être un peu curieux, mais ils vont découvrir ce qu'est le podcaston, surtout quels sont les épisodes de podcasts qui y participent. Et on espère que ça fera plein d'auditeurs pour les podcasts, parce que potentiellement, ça fera plus de dons, ou plus de bénévoles, ou plus de notoriété pour toutes les associations qui sont mises en avant.
Alors, les gens de médias, on sait, ont pour mission première d'informer le public, de le divertir parfois, mais aussi d'inspirer, de se faire l'écho d'initiatives. Et c'est ça aussi qui est fondamental dans l'approche qui est la vôtre du podcaston.
Oui, très, très clairement. On est vraiment dans la notion de prévention, d'information, d'inspiration presque. Ce qu'il faut vraiment comprendre pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que les podcasts, vous le savez, c'est un canal avec une qualité d'écoute exceptionnelle. On décide d'écouter un podcast, ça peut durer 20 minutes, ça peut durer 30 minutes, parfois plus d'une heure. Et donc, cette qualité d'écoute, elle peut servir à faire passer des messages, peut-être probablement bien mieux, de façon bien plus efficace que sur les réseaux sociaux traditionnels, où le message est peut-être un peu plus fugace. Et donc, on rentre dans le détail de cette association, de ce qu'elle fait, de ses besoins, de ce qu'est être bénévole ou dirigeant d'une association. Et nous, on espère, c'est peut-être un vœu pieux, c'est peut-être un peu naïf, voire utopique, mais on espère qu'une grande partie des gens qui écoutent un épisode ou plusieurs spéciales podcastons se diront à la fin de l'épisode, premièrement, magnifique ce qu'ils font, et deux, qu'est-ce que je peux faire moi ? Qu'est-ce que je peux faire pour cette association si elle m'a touché, ou pour toute autre association ? Est-ce que je peux m'impliquer ? Est-ce que je peux donner un peu de sous ? Est-ce que je peux, pourquoi pas, créer ma propre association, qui soit locale ou plus nationale ? Bref, que les gens se mettent en mouvement, et on croit beaucoup au mimétisme social, donc on essaye de montrer cette diversité du monde associatif pour que ça mette en mouvement plus de gens dans ce secteur-là.
Merci beaucoup. Plus d'informations sur podcaston.org. Merci Jérémy Mani. À bientôt.
Merci beaucoup.
L'Atelier des médias se joint au podcaston en vous mentionnant deux associations que l'on apprécie. Tout d'abord, la ZEP pour Zone d'expression prioritaire. C'est un média, d'une part, mais c'est aussi un dispositif d'accompagnement à l'expression des jeunes de 14 à 28 ans via des ateliers de création de médias encadrés par des journalistes professionnels. Vous en saurez plus sur zep.media. La seconde association, c'est Journalisme et Citoyenneté, qui organise les Assises internationales du journalisme, dont la prochaine édition se déroule à Tours du 25 au 30 mars. Le mieux pour en parler, c'est Jérôme Bouvier, le président de cette association et le fondateur des Assises. Bonjour Jérôme.
Bonjour Steven.
Le thème des Assises cette année, c'est le journalisme, c'est du sport. On imagine que ce thème a été choisi en lien avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je me trompe ?
On ne peut rien se cacher. Comment pouvait-on éviter de faire un focus très détaillé sur le journalisme de sport alors que la France, Paris, va accueillir les Jeux Olympiques, que ça faisait plus d'un siècle que ça n'était pas arrivé, et que, pour donner une petite image, l'événement va assembler 34 000, il y a à ce jour 34 000 accréditations de journalistes du monde entier pour couvrir cet événement qui devrait intéresser, dit-on, 4 milliards d'individus sur Terre, c'est-à-dire un habitant sur deux de notre vieille planète. Donc 34 000, je me disais, c'est à peu près, à quelques unités près, le nombre de cartes de presse qu'il y a en France, à une assez bonne occasion donc d'aller explorer toutes les facettes du journalisme de sport. Il y aura plus de 20 ateliers, débats, soirées autour des questions que pose le journalisme de sport.
Jérôme, les Assises de Tours sont un événement pluriel. Il y a des ateliers, des prix, des rencontres. Une d'ailleurs, j'ai noté avec Edoui Plenel, qui était notre invité la semaine dernière dans l'atelier des médias. Il y a également un salon du livre, des projections, un banquet citoyen. C'est un événement qui se veut vraiment ouvert au plus grand nombre et dans différents formats.
Oui, parce que l'association que j'ai créée avec quelques confrères et consoeurs, il y a 18 ans maintenant, nous fêtons nos 18 ans, Journalisme et Citoyenneté, elle dit bien son ambition dans son titre, c'est-à-dire que j'ai toujours eu la conviction qu'il n'y avait qu'un seul chemin pour essayer de retrouver la confiance de nos concitoyens, eh bien c'est sans arrogance d'engager le dialogue avec eux. Quand je dis nous, c'est les journalistes, c'est les éditeurs, les médias, d'engager un dialogue approfondi avec nos auditeurs, nos publics, pour vérifier qu'ils sont en adéquation avec ce que nous leur proposons, pour connaître leurs attentes, pour entendre leurs critiques. Donc c'est le cœur du rendez-vous des Assises, c'est de faire un rassemblement annuel qui rassemble à la fois les professionnels et le grand public pour débattre des conditions de production d'une information de qualité. Donc on n'a pas lâché ce fil rouge-là depuis 18 ans. À l'époque, on m'avait dit « citoyenneté, c'est un peu ringard comme terme ». Je pense qu'il a toute sa modernité, plus que jamais encore aujourd'hui. Donc, chacun a senti que s'il n'y avait pas de recette miracle pour retrouver la confiance, il n'y avait encore une fois qu'un seul chemin possible pour la retrouver. C'est dans ce dialogue approfondi, comme tu le fais toi aussi avec l'atelier des médias. Donc, on va essayer de ne pas lâcher ça, ni cette année, ni les années qui viennent. Donc, effectivement, on a, par exemple, une expérience qu'on a menée l'année dernière, qu'on va reconduire, un banquet journaliste et citoyen, où il y a 50 journalistes face à 50 citoyens qui dînent ensemble, par table de 4, donc en face à face, qui peuvent dialoguer en face à face sur ce qu'ils attendent les uns et les autres, soit des journalistes, soit de l'information, et que ce dialogue puisse ne pas être vous les journalistes au sens large, mais toi journaliste, voilà ce que j'ai à te dire. Cette deuxième édition du banquet journaliste et citoyen me paraît assez prometteuse.
L'événement se déroule à Tours, principalement au Palais des Congrès, donc en face de la gare. Sera-t-il possible de le suivre à distance ?
Alors, tout sera disponible après coup, mais tout ne sera pas disponible en direct. Les grands rendez-vous, les prix des Assises, avec la soirée traditionnelle de remise des prix du jeudi 28 mars avec Michel Denisot, qui sera le président du jury cette année, ça vous pourrez le suivre en direct. Mais le reste, vous pourrez le suivre quelques jours après. Tous les ateliers, tous les débats, comme dont vous pouvez garder la trace. Vous pouvez même retrouver les 17 éditions précédentes sur journalisme.com et aussi d'ailleurs pour la partie éducation aux médias sur notre site dédié à l'éducation aux médias qui s'appelle mediaeducation.fr. la plateforme à l'usage de tous les acteurs francophones de l'EMI tout au long de la vie.
Jérôme, lundi a été lancé en France l'OFALP, Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse, auquel l'association Journalisme et Citoyenneté s'est associée. Les assises vont se faire l'écho de ce lancement et du fait que la liberté de la presse, y compris en France, est attaquée.
Oui, bien sûr, parce que c'est une initiative qui nous a tout de suite intéressés, et les initiateurs ont bien voulu le rappeler lors de la conférence de presse. Elle est d'ailleurs née des échanges de l'année dernière aux Assises, notamment autour de ce banquet journalistes et citoyens, etc. Et cette réflexion a été approfondie, travaillée pour donner lieu à ce collectif. Ce qui m'intéresse aussi dans l'affaire, je le précise, c'est qu'il y a plein d'initiatives comme ça qui sont nées de rencontres et qui se sont faites aux Assises, les résidences de journalistes, c'était comme ça, l'aide aux médias de proximité, les médias de quartier, ça c'était comme ça. Donc c'est aussi ce côté terreau, matrice de nouvelles initiatives qui justifie à mes yeux le rendez-vous que sont devenus les Assises. Donc pour revenir en tout cas à ce collectif, oui, nous y participons dans la mesure de nos capacités pour essayer de faire un relevé aussi rigoureux et précis que possible des atteintes à la liberté de la presse. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, elles sont également le fruit ou le résultat aussi de nos démocraties. J'en profite également pour dire d'ailleurs que comment passer à côté de cela, nous traitons l'actualité internationale, les grands événements écoulés. Il y aura donc une soirée d'ouverture qui sera consacrée à la difficulté du journalisme pris dans la propagande entre le Hamas et l'armée israélienne. Et un grand hommage et un témoignage de solidarité qui sera rendu aux journalistes tués à Gaza. Il y en a plus de 100, que ce soit le chiffre, que c'est 110, 130. C'est insupportable, il faut que ce massacre cesse. Et donc, dans la foulée de la journée que nous avions organisée à l'Institut du Monde Arabe le 16 février dernier, avec Reporters sans frontières et la Fédération internationale des journalistes, nous allons de nouveau appeler à ce que tous les acteurs se mobilisent pour que cesse ce massacre des journalistes à Gaza.
Jérôme, tu en as parlé tout à l'heure, dans l'ADN des Assises, depuis fort longtemps, il y a la question de l'EMI, l'éducation aux médias, à l'information. Alors, on rappelle que s'est déroulée cette semaine en France la semaine de la presse et des médias dans l'école. Comment est-ce que cela va se traduire cette année encore dans le programme des Assises?
Cette année, il y aura près de 1100 collégiens et lycéens qui vont participer aux différents ateliers, rencontres avec des journalistes, propositions que leur font les différents médias partenaires. Donc, on a une très très forte participation des collégiens et lycéens à ces assises et on s'en réjouit. Mais au-delà de ça, il y a donc les six prix dont je vous ai parlé, les six prix éducation média qui distinguent, on est les seuls à remettre des prix en matière, qui distinguent le meilleur dans toutes les diversités de l'éducation aux médias et à l'information. Et nous, notre prisme, c'est à la différence de la semaine de la presse à l'école qui est donc tournée, et c'est bien normal, vers l'école, nous, en prolongement, nous souhaitons développer l'éducation aux médias et l'information tout au long de la vie. C'est le slogan que nous avons repris pour notre site mediaeducation.fr, c'est-à-dire tout au long de la vie, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à la sortie de l'école, l'éducation aux médias et l'information. On peut avoir 70 ans et répercuter les fausses nouvelles avec encore plus de gourmandise qu'un gamin de 6 ans. Ce n'est pas parce qu'on a fait un peu comme les cours d'éducation civique, ce qu'il faut à l'école, qu'après la société est exonérée de l'éducation à l'information pour lutter contre les fake news. Donc ça me paraît très important qu'on va créer un prix médiathèque et bibliothèque. Par exemple, il y a plus de 18 000 médiathèques et bibliothèques en France. Ce sont des lieux parfaits pour diffuser, imaginer, instaurer des activités d'éducation à l'information dans les hôpitaux, dans les prisons, même on a primé parfois des actions dans les prisons, à l'université où il ne se passe pratiquement plus rien en matière d'éducation et d'information. Donc il y a un champ immense pour mobiliser tous les acteurs et on voit bien à quel point, encore une fois, j'y reviens, mais c'est une telle évidence que la question de la lutte contre la désinformation, la lutte contre les fake news devient un enjeu de société majeur, d'autant quand elle est relayée par des officines étrangères.
Ces sujets nous tiennent évidemment à cœur ici à l'atelier des médias de RFI. Merci beaucoup Jérôme Bouvier.
Je te remercie Steven et puis longue vie à l'atelier.
Merci. Les 17e Assises internationales du journalisme de Tours, c'est du 25 au 30 mars 2024. Plus d'informations sur journalisme.com. À bientôt Jérôme Bouvier et longue vie aux Assises.
À bientôt.
L'atelier des médias.
C'était l'Atelier des médias, dont vous pouvez profiter d'une version longue en podcast. Rendez-vous chaque samedi sur l'application d'écoute de votre choix. On vous recommande RFI Pure Radio. Merci à Simon de Creuse qui a réalisé cette émission. Pour nous contacter, le plus simple est de nous envoyer un mail à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.